Bonjour à chacun et à chacune. Ce matin, en guise de méditation, je voudrais apporter quelques mots de conclusion à la série que nous avons traitée au cours des dernières semaines ou débutée avant Noël sur les promesses de Dieu. Alors, je ne sais pas quel souvenir vous avez de ces différentes prédications qui ont été apportées. Peut-être votre souvenir n'est pas aussi fort que celui que je peux en avoir ou que celui des anciens. Mais je vous inviterai quand même peut-être de temps en temps à simplement réécouter peut-être certaines de ces séries parce que plus j'y pense, plus j'y réfléchis, plus je lis à propos des promesses de Dieu et plus je me dis il y a énormément de choses qui nous feraient énormément de bien. Et je le dis parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dans les promesses de Dieu qui ne tombent pas sous le sens ou qui sont des choses dont nous n'avons pas toujours conscience. Et que s'il y a peut-être un des thèmes que vous pourriez continuer à exploiter pour vous-même en lisant l'Écriture, c'est de comprendre ce que Dieu a en réserve pour ses enfants. Et vous découvrirez à quel point cela va encore une fois bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais aussi que ça nécessite de notre part une façon de les comprendre, une façon de les écouter, une façon de les voir. Et ce matin, on aurait pu continuer encore notre série sur d'autres promesses que le Seigneur nous fait. Et je crois que c'est Philippe qui nous rappelait qu'il y avait quelques milliers de promesses dans l'Écriture que le Seigneur fait. Mais nous, ce qu'on avait fait dans notre série, c'était de regrouper ces promesses et de se focaliser surtout sur les promesses que le Seigneur nous faisait en rapport avec notre vie de tous les jours et ce qu'il entend faire dans notre vie dès maintenant. Parce que le Seigneur a entamé une œuvre dans notre cœur. Le Seigneur promet que cette œuvre, il la rendra parfaite, mais c'est une œuvre qui a commencé dès aujourd'hui. Et donc, il est important, et je crois que les sujets qu'on a traités jusqu'à présent sont des sujets qui viennent tout proches de ce que nous vivons tous les jours, et que si nous les écoutons, et si nous pensons comme l'Écriture, notre vie sera certainement transformée. Alors simplement pour démarrer aussi, j'aurais simplement vous rappeler qu'une promesse qu'on trouve dans la Bible, c'est d'abord et avant tout une parole qui nous est donnée de la part de Dieu. Et quand je vous dis cette parole qui nous est donnée, c'est dans le sens de on donne sa parole, c'est-à-dire on s'engage. Et simplement pour vous rappeler ce que l'Écriture nous dit à propos de Dieu et de la vérité qui est en Dieu, c'est que Dieu est premièrement un Dieu qui ne ment pas, c'est-à-dire que ce qu'il dit, il ne revient pas dessus, ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit est compréhensible de la part des hommes. La deuxième chose qui nous est dit, c'est que le Seigneur est un Seigneur qui tient parole et qui reste fidèle. C'est-à-dire qu'il n'attache pas un certain nombre de conditions à ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, il le fera. Et certains versets même de l'Écriture nous disent que lui reste fidèle, même si lorsque nous sommes infidèles ou que nous avons changé d'avis et tout ça, Dieu, lui, il reste fidèle. Et donc une parole donnée est une parole donnée qu'il va tenir. C'est dans la nature même de Dieu, et non pas dans la qualité de notre relation, que Dieu reste fidèle, fidèle à sa parole, mais fidèle envers aussi ceux qu'il aime et que nous sommes. Et puis la troisième chose qui me paraît importante aussi, c'est que dans l'Écriture, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est simplement une parole donnée et qui s'envole comme nos propres paroles, mais que la parole de Dieu est quelque chose qui provoque un changement. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui crée. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui transforme. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui a autorité. Et donc, lorsque Dieu donne sa parole, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il a dit de ses bons sentiments ou quoi que ce soit, c'est par sa parole qu'il entame un processus et qu'il agit. Et donc, lorsque Dieu nous donne des promesses et qu'il parle, eh bien, ces promesses, comme sa parole, sont vivantes et ce sont des promesses qui sont efficaces pour accomplir la parole de Dieu dans notre propre vie. Et vous savez comme moi ce verset qui nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait sa volonté. Eh bien, il y a une catégorie de paroles qu'il a prononcées qui sont les promesses. Et ces promesses ne sont pas simplement des promesses de Gascon, des choses qui sont en l'air, mais ce sont des choses qui nous ont été dites et données afin de produire un effet dans notre propre vie. Donc encore une fois, lorsque vous réfléchirez aux promesses, pensez avant tout au caractère de Dieu et que la robustesse et la solidité et la fiabilité de ces promesses, ce n'est pas simplement qu'elles existent depuis des millénaires, c'est parce qu'elles sont ancrées dans la personne même de Dieu qui ne ment pas, qui est fidèle et dont la parole est une parole qui est efficace. La deuxième chose que j'aimerais peut-être dire en guise de conclusion aussi sur les promesses, c'est que, dans un sens, pourquoi est-ce que Dieu nous a fait des promesses? Et peut-être de façon rapide, on peut dire, la première des choses, c'est naturellement de susciter en nous la foi, d'affermir cette foi que nous avons, parce que notre foi ne se nourrit pas de l'air qui passe, ou simplement de nos sentiments, mais c'est une foi qui s'ancre dans la parole de Dieu. Et donc Dieu nous donne des promesses pour dire si vous avez de quoi vous appuyer. Vous pouvez vous appuyer sur quelque chose. Je ne vous demande pas d'avancer complètement à l'aveugle au jour le jour. Mais voilà, j'annonce un certain nombre de choses. Voilà comment je vais agir envers vous. La deuxième raison aussi, me semble-t-il, c'est que Dieu nous donne des promesses, et là, celles que nous avons traitées ensemble en tant que conseil, aussi pour nous instruire sur ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce qu'encore une fois, Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour nous mettre ensuite à l'arrêt et en mode pause jusqu'à son retour. Le jour où il nous a sauvés, le jour où nous en avons pris conscience et que nous nous sommes repentis, que nous avons reçu ce salut par la foi, ça a été le démarrage de quelque chose. Et Dieu dit, c'est le démarrage, allons-y. Et donc ces promesses nous aident en fait à découvrir aussi quelle est la volonté de Dieu pour notre vie de tous les jours et de ce qu'il entend faire dans notre propre vie. Et puisque c'est un Dieu qui est bon, puisque sa parole est une bonne nouvelle, puisqu'en fait ce que nous connaissons en Dieu est le passage de la mort à la vie, il n'y a que de bonnes choses que le Seigneur a en réserve pour nous et dès aujourd'hui. Et donc voilà une deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous donne des promesses. Et puis dans la foulée, là, c'est ces expressions qui, lorsqu'on y pense, c'est assez extraordinaire, c'est que le Seigneur est venu pour donner la vie et la donner en abondance. Donc non seulement il est venu simplement pour sauver les gens et puis qu'au moins la vie continue, mais aussi pour que les gens qui le connaissent et vivent une vie d'abondance. Et ça, je crois que lorsque nous discutons parfois entre nous, lorsque nous regardons notre propre vie, combien d'entre nous diraient vraiment que nous vivons une vie en abondance? On a plein de soucis, on a plein de questions. Il fait gris, il y a du brouillard, on n'est pas toujours... Mais qui dirait aujourd'hui, vraiment, moi j'ai une vie qui... ça jaillit, c'est magnifique, c'est l'abondance, etc. Et pourtant, c'est la promesse que le Seigneur nous donne. C'est que la vie à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui est une vie d'abondance. Et là est en fait tout l'objectif que les promesses ont. Et c'est ce que la série que nous avons faite essayait de montrer aussi. Bien sûr, on aurait parlé des promesses de Dieu à propos de la création, on aurait pu parler des promesses de Dieu à propos de l'Église, mais on s'est focalisé sur les promesses de Dieu pour notre vie. Et lorsque nous avons parlé des épreuves, lorsque nous avons parlé de la providence, lorsque nous avons parlé de la joie intérieure, lorsque nous avons parlé de notre salut et que rien ne peut en fait nous arracher de la main du Seigneur, tout cela était pour encore rappeler ce que le Seigneur nous dit de cette œuvre qu'il a commencée en nous et de cette certitude et de cette qualité de vie qu'il veut nous donner aujourd'hui, qui fait que les doutes par rapport à notre salut, comprendre nos épreuves, sont des moyens par lesquels nous pouvons découvrir et vivre cette vie en abondance que le Seigneur nous donne. Voilà une autre raison pour laquelle le Seigneur nous donne ses promesses. Et donc maintenant, en termes de conclusion, il me semblait qu'il restait peut-être un point à discuter. C'est dans un sens les promesses que le Seigneur dit et qui sont écrites dans sa parole. En fait, comment est-ce qu'elles deviennent réalité pour nous? Comment est-ce que nous les saisissons? Comment est-ce que ces promesses, je peux voir l'impact qu'elles vont avoir dans ma vie? Et là, il me semble qu'il y a trois étapes importantes pour que ces promesses deviennent réalité dans notre propre vie. La première, c'est de connaître les promesses du Seigneur. Je dirais que c'est un peu une généralité. Enfin, quand Philippe nous rappelle qu'il y a quand même des milliers de paroles et de promesses dans l'Écriture, moi, ça me fait un effet, je me perds un petit peu dans tout ça. Des milliers de promesses, d'accord, mais quoi exactement ? La deuxième raison pour laquelle il nous faut connaître les promesses aussi, c'est que le cœur de l'homme, il n'a pas toujours exactement les mêmes pensées que le Seigneur. Et ça me rappelle un peu mes enfants, quelquefois, qui venaient me voir et puis disaient « Si, papa, tu as promis que tu ferais ça. » Puis moi, j'étais là, je me disais « Mais quand est-ce qu'il m'a dit ça ? Quand est-ce que je lui ai dit ça ? Et si, papa, tu as dit que ?» Ah bon ? Ou alors, quand on devient un peu plus grand, on devient un peu plus sophistiqué, puis on dit « Mais oui, mais enfin, tu as laissé entendre que ?» Tu m'as laissé croire que. Et on arrive souvent dans notre vie en se disant, mais si Seigneur, quand même. Et on se rend compte en fait qu'il peut y avoir facilement un décalage entre ce que nous pensons, ce que nous vivons et ce que le Seigneur a peut-être dit. Et on le constate peut-être dans notre vie, on dit, mais pourquoi Seigneur, tu ne fais pas ça, ou il n'y a pas une réponse à ça, quand en fait peut-être le Seigneur n'a pas, il ne s'est pas tout à fait engagé à dire, je m'en occuperai comme tu le penses. Et il peut y avoir beaucoup de méprise. Et là, je vais vous donner un conseil, c'est comme tous les contrats. Mieux vaut retourner les lire constamment et y revenir, parce que mieux vaut savoir ce qui est écrit, plutôt que de garder simplement un souvenir distant ou d'en faire une interprétation un petit peu large. Et moi, je me rends compte souvent dans mon travail, quelquefois, je suis obligé de retourner voir ce qui a été écrit avec un certain nombre de partenaires, parce qu'en fait, on oublie. Où on retient certaines parties seulement, puis on a oublié une clause importante. Ou alors l'interprétation qu'on en faisait n'est pas la même que l'autre personne la faisait. En ce moment, je suis en train de travailler un contrat avec une ligne aérienne. C'est incroyable ce que les avocats arrivent à tergiverser, mais c'est pour éviter que dans un an ou deux, on ait tous une interprétation différente de ce qu'on voulait exactement dire dans le contrat. Et donc ici, la chose importante, c'est encore de revenir à l'Écriture et de se dire, est-ce que vraiment l'Écriture nous dit que ? Et pour mettre ça en situation, aujourd'hui, dans l'Église et dans les Églises évangéliques, il y a un certain nombre de choses qui sont enseignées qui, me semble, ne sont pas fondées sur les promesses du Seigneur. Fort heureusement, il y a beaucoup de réactions qui se font. Tout ce qui est théologie aujourd'hui de la prospérité et de la bonne santé. Au cours des 10-15 dernières années, c'est incroyable à quel point des églises et des prédicateurs se sont levés en disant « Mais le Seigneur veut que vous soyez prospères financièrement, veut que votre santé soit en bonne santé. » Et donc, ça a été enseigné de façon générale dans un certain nombre d'églises, par un certain nombre de prédicateurs, et qui en fait était à la poursuite de cette prospérité dans le monde actuel. Fort heureusement, un certain nombre de prédicateurs aujourd'hui, de théologiens, se lèvent pour dire « Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. » Et je ne vais pas prendre mon temps maintenant pour le démontrer et tout. Mais l'Écriture n'enseigne pas nécessairement aujourd'hui que nous nous retrouverons dans une situation de prospérité avec une santé de fer dès aujourd'hui. Et je pourrais m'étendre aussi sur d'autres cas où tout simplement on se trompe dans ce qu'on pense de ce que dit l'Écriture. Alors pensez, s'il y a 2000 et quelques promesses dans l'Écriture, à quel point vous en avez peut-être sélectionné certaines ou il y a peut-être certaines choses que vous avez complètement oubliées. Ce que Jean-Paul nous disait sur les épreuves, ce n'est pas tout à fait ce qui monte au cœur tout à fait naturellement. C'est-à-dire que les épreuves, le Seigneur il dit « Oui, vous allez avoir des épreuves, et alors ?» Mais dans ces épreuves, moi je vais les utiliser. Ne vous étonnez pas. Et si même mon propre fils est passé par les épreuves et qu'il a appris la obéissance par les choses qu'il a souffertes, vous pensez que vous ne passerez pas par là ? Et ça, c'est des choses qui ne montent pas au cœur de l'homme naturellement. Et c'est pour ça qu'il nous faut revenir à l'Écriture constamment, pour savoir exactement ce à quoi le Seigneur s'est engagé. Parce qu'ensuite, on fait des choses bizarres. Et on dit, mais le Seigneur... Si, il a enseigné ça, ou alors, mais Seigneur, tu m'as laissé croire que. Et c'est là où il faut faire attention. La deuxième chose, c'est naturellement, une fois qu'on a vu ce que le Seigneur avait vraiment promis, c'est de comprendre un petit peu quelles sont ses promesses. Parce que la première des choses, c'est que toutes les promesses dans l'Écriture ne s'appliquent pas de la même façon. Alors nous, souvent, on a réduit les promesses au tiroir-caisse, et puis le Seigneur, il a promis, tu as un contrat, tu honores le contrat. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. La première des choses, c'est que certaines promesses dans l'Écriture ont été données à des individus, ou dans certaines circonstances, et ce n'est pas nécessairement des promesses qui ont été faites à tout le monde. Prenez la promesse qui a été faite à Abraham d'avoir un fils. Ce n'est pas une promesse qui a été faite à tout le monde. Prenez la promesse qui a été faite à David que ses ancêtres, il y aurait toujours un ancêtre sur le trône. Ce n'est pas une promesse qui a été faite à tout le monde. Vous prenez même ce passage de Jérémie que nous citons souvent, et je connais les plans, les projets que j'ai faits à ton sujet, projets de paix, de machin comme ça et tout. Strictement parlant, ça n'a pas été fait à nous, ça a été fait à Israël. Alors fort heureusement, on peut s'approprier ces textes-là parce qu'on a des textes qui font écho à ce genre d'attitude du Seigneur dans le Nouveau Testament et tout, et donc on peut les utiliser. Mais strictement parlant, au début, ce sont des textes et des promesses qui ont été faites dans certaines circonstances et qui donc ne s'appliquent pas toujours à tout le monde. Et ça nous amène quelquefois dans des positions douloureuses lorsqu'on se trompe à ce point-là. Moi, j'ai connu plusieurs femmes qui, en lisant l'histoire de Anne et Samuel, pensaient que le Seigneur, premièrement, avait fait une promesse dans ces textes-là, et deuxièmement, que s'il avait fait ça pour Anne, il le ferait aussi pour elle. Et que leur problème d'infertilité, de stérilité, serait résolu sur la base de ces textes-là. Alors, ce qui est déjà phénoménal, c'est que quand vous relisez le texte, il n'y a pas de promesse de la part du Seigneur. C'est plutôt le Seigneur qui répond à une demande de Anne. Mais en plus, au nom de quoi est-ce qu'on généralise et qu'on s'approprie un certain nombre de choses? Et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur s'est engagé. Si, si, Seigneur, tu m'as laissé entendre que si tu l'as fait pour les autres, tu dois le faire pour moi. Et on peut se tromper là-dessus. Cela dit, il y a effectivement un certain nombre de promesses qui touchent absolument tous les croyants. Et ça, on en a beaucoup, et je pense que celle dont on a parlé dans la série touche à ça, mais vous prenez des textes comme dans le livre des Hébreux, où le Seigneur dit « Je ne vous abandonnerai pas ». C'est un texte qui s'applique à tous les croyants et à toute l'Église, et que là, nous pouvons nous l'approprier aussi. Lorsque le Seigneur a quitté, puis il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde chaque jour », ce sont des choses qui légitimement s'appliquent à nous aussi et que nous pouvons saisir. Et il y a beaucoup de promesses comme ça qui peuvent être saisies par l'Église et par tout un chacun. Et puis, il y a une dernière subtilité sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, qui est pour que des promesses deviennent réalité, il y a certaines conditions qui doivent se réaliser. Par exemple, vous prenez ce beau texte du psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la prière de chacun, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on voudrait, etc. Et tout. Mais dans le texte, on a ces deux propositions ensemble. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et donc, je reviendrai sur quel est le mot exactement qu'il faudrait utiliser. Est-ce que c'est des conditions ou pas des conditions dans lesquelles le Seigneur réalise ses promesses? Mais en tous les cas, il y a dans nombre de choses où il faut, dans un sens, rapprocher les deux parties qui vont ensemble. Et tout à l'heure, je donnerai d'autres exemples dans l'Écriture où il y a aussi des sortes de conditions dans lesquelles se réalise ce que le Seigneur veut faire à notre égard. Mais je vous encourage aussi à comprendre, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il arrive souvent que les promesses du Seigneur sont faites dans des conditions où ça nous paraît totalement impossible. Ou alors ça va complètement à l'encontre de la logique. Ou complètement à l'encontre de ce que nous pouvons penser. Vous prenez ce qui arrive de façon répétée dans l'Ancien Testament, c'est Pourquoi est-ce que le méchant prospère et le juste souffre? Alors là, il y a vraiment un problème. Et puis nous, aujourd'hui, on le regarde, on a quand même l'impression que le méchant prospère. Et puis le juste, il n'est pas toujours mieux loti. Et pourtant, le Seigneur dit, moi, je veille sur le juste. Et le Seigneur dit, les jours du méchant sont comptés. Mais il arrive quelquefois, tout simplement, que nous repensons tout ça, puis on se dit, ouais, bon, bah, très bien, bah, peut-être plus tard, quoi. Mais pas maintenant, en tout cas. Et pourtant, le Seigneur a montré à maintes reprises dans l'Ancien Testament et dans l'histoire d'Israël que, oui, les jours du méchant sont comptés et que, d'une façon ou d'une autre, le juste, lui, il dure. Il est protégé. Et donc là aussi, il nous faut faire un effort pour comprendre, lorsque ça va complètement contre notre penchant naturel ou nos intuitions, que les promesses du Seigneur, elles sont là. Prenez celle peut-être qui nous paraît le plus proche aujourd'hui. Le Seigneur tarde à revenir. Qui d'entre nous s'est jamais posé la question en se disant « ça fait quand même longtemps, Seigneur ». Qu'est-ce que tu as encore à faire? Je veux dire, on était 3 milliards il y a 40 ans, c'était plus facile à sauver 3 milliards que 7 milliards aujourd'hui. Donc, je ne vois pas pourquoi tu tardes. Et on se pose peut-être cette question et on se dit, mais il a promis de revenir, mais je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas encore fait. Alors, on se dit quelque part, Seigneur, je ne peux pas supporter davantage. Lorsqu'on parle de ce que le Seigneur fait en nous, dans nos épreuves, on arrive à un moment, mais Seigneur, je ne peux pas aller au-delà de où je suis. J'ai trop supporté. Je ne tiendrai pas le coup. Et là aussi, on a des choses qui montent en nous et qui disent, dans un sens, oh là, Seigneur, au-delà de ça, tu ne pourras pas tenir ta promesse parce que moi, je vais craquer. Et alors il nous arrive comme Abraham, qui lorsque la promesse lui avait été faite que sa femme Sarah aurait un fils, ou qu'il aurait un fils, pardon, il s'est dit, ben Sarah elle est quand même âgée, c'est quand même difficile. Et là on retravaille et on réinterprète, et comme Abraham on se dit, j'ai trouvé comment le Seigneur va le faire, je vais prendre ma servante, qui est beaucoup plus jeune, et j'aurai un fils par elle, parce que dans notre monde c'est comme ça que ça se fait. Et j'aurai un fils par elle, et c'est comme ça que la promesse du Seigneur se réalisera. Et on se trouve dans des situations où quelquefois on recompose, on réinvente. On ajuste des choses qui encore ne sont pas parfaitement synchro avec ce que le Seigneur, lui, nous dit dans sa parole. Et là, il a de revenir voir Abraham pour dire, Abraham, non, je sais que dans ta culture, et d'accord, c'est ton fils, Ismaël, c'est ton fils, etc. Mais ce n'est pas comme ça que moi j'avais l'intention de le faire. Et tout ça pour montrer que quelque part, les promesses du Seigneur, quand nous les écoutons, il y en a certaines qui, on a du mal à comprendre comment elles peuvent se réaliser. Et à moins que nous ne prenions le temps de veiller sur nous-mêmes et de nous dire, faisons attention de ne pas tordre la parole de Dieu ou de la réinterpréter, on risque de se retrouver dans des interprétations qui ne sont pas appropriées et pas justes. Et de passer à côté de ce que le Seigneur voudrait. Et puis la dernière chose sur qu'il nous faut comprendre, me semble-t-il, par rapport aux promesses, c'est que Dieu les réalise souvent en créant en nous la patience, l'endurance, et il travaille dans le temps. Alors nous, on dit, Seigneur, si tu as promis que, pourquoi tu ne donnes pas maintenant? Terminé. C'est fait. Mais le Seigneur a une façon de distribuer ses promesses et de les réaliser, en travaillant notre patience et notre endurance, et en travaillant dans le temps aussi. Et toute l'histoire d'Israël est une histoire de patience, d'endurance, d'accouchement long et difficile, jusqu'à ce que le Seigneur, lui, arrive et vienne sauver son peuple. Et ça, c'est vrai dans notre propre vie. Et vous reprenez nombre de textes dans lesquels, dans un sens, nous pouvons saisir les choses magnifiques du Seigneur au travers de la patience, de l'endurance, de la persévérance. Et moi, il y a des choses que je comprends aujourd'hui que probablement, je n'aurais pas pu comprendre quand j'avais 20 ou 25 ans. Parce que le Seigneur utilise ma vie, les événements, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, pour me faire comprendre un certain nombre de choses, ou les mettre en lumière, ou leur donner une nouvelle couleur. Et donc, toute notre vie est, dans un sens, le théâtre dans lequel le Seigneur réalise ses promesses. Et là non plus, il ne faut pas se tromper en se disant « je vais faire un effort pour arriver à saisir cette promesse-là, une fois que je l'aurai, je passerai à une autre. » Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et il ne faut jamais oublier que dans un sens, notre propre vie, avec tous les jours que nous passons, toutes les années que nous passons, tous les événements que nous passons, c'est là le théâtre dans lequel le Seigneur est en train de réaliser ses promesses. Votre propre vie, vos propres événements, qui vous êtes, les années que vous vivez, les gens que vous rencontrez, les expériences que vous faites, c'est là-dedans que le Seigneur accomplit son travail et réalise ses promesses. Donc il ne faut pas être impatient. Il ne faut pas nécessairement se dire « mais je suis frustré parce que je n'ai pas encore compris que, ou je n'avais pas saisi que, donc maintenant je vais vite me rattraper le temps perdu ». Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous raconter moi, tout ce que j'ai appris à titre personnel sur ces promesses. Mes chers collègues du Conseil, dernièrement, je leur ai beaucoup parlé à ce sujet en disant à quel point dans ma propre vie, d'arriver à saisir et à comprendre en fait, la dimension et l'impact que ces promesses peuvent avoir, c'est quelque part, quelquefois, des choses qu'on apprend seulement plus tard ou au travers du temps. Bref, le premier point de conclusion qui me semble, c'est de revenir à ce que Pierre nous disait au début de notre série sur les promesses, c'est que pour bien saisir les promesses, la première des choses, c'est laisser la parole de Dieu transformer notre intelligence et la renouveler. Ça se passe déjà là-haut. Comprendre les promesses de Dieu et vivre dans les promesses de Dieu, ça se passe déjà de bien comprendre ce que Dieu est en train de dire. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il a dites, et il y a tellement de façons de se tromper sur ce qu'il dit, qu'il nous faut, comme nous exhorte l'apôtre Paul, non seulement dans l'épître aux Romains, mais il le reprend dans d'autres épîtres aussi, nous laisser renouveler notre intelligence pour que nous comprenions avec la parole de Dieu ce que Dieu a effectivement dit. Et que quelque part, notre cœur coule dans un tout autre sens que ce que le Seigneur, lui, voudrait éventuellement réaliser. Donc méfions-nous de nos convictions personnelles. Méfions-nous de ce que des églises avec certaines tendances, même peut-être celle-ci, par moment, on a des tendances et des modes, etc., et tout, de prêcher plus certaines choses que d'autres. Mais retournons à l'Écriture pour déjà savoir ce que Dieu a dit et comment cette Écriture peut en fait transformer notre compréhension de ce que nous pensons que Dieu a dit. Et je vous donne simplement l'exemple pour vraiment saisir à quel point Dieu réalise des promesses au travers des épreuves, mais la première des choses qu'il faut accepter, c'est tout simplement dans notre tête que l'épreuve entre les mains de Dieu n'est pas nécessairement une chose mauvaise et que Dieu a intentionnellement décidé d'utiliser les épreuves pour accomplir son œuvre en nous. Si nous ne comprenons pas encore dans notre tête que c'est comme ça que Dieu va le faire, il n'y a aucun moyen par lequel ça va descendre dans notre cœur et que nous allons pouvoir le vivre. Parce que nous aurons toutes les raisons de résister à cette vérité biblique. Et donc il est important, chers amis, lorsqu'on parle des promesses, de ne pas simplement se dire « Dieu, il est bon, puis il me donne toutes sortes de choses, et puis il déverse sa bonté dans tous les sens. » Non, Dieu, il a été précis, il a dit des choses, il y a des choses qu'il n'a pas dites. Il les a liées à d'autres événements, d'autres conditions. Il dit, c'est dans toute ta vie, ce n'est pas simplement quelque chose que tu comprends le jour où tu décides de le comprendre. Et à moins que nous le comprenions et que nous laissions cette parole transformer la façon dont nous comprenons les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, nous risquons fort de passer à côté et de tomber peut-être alors dans ce qu'Abraham a essayé de faire. Il dit, Seigneur, je ne crois pas que tu avais complètement compris les circonstances dans lesquelles ça allait se faire, donc je vais te donner un coup de main. Je vais te donner un coup de main parce que tu as dit les choses, mais peut-être que tu n'as pas tout à fait réfléchi assez longtemps. Et je le dis avec une pointe d'humour, là, mais c'est parfois le genre de choses que l'on dit. Le nombre de chrétiens qui me disent, oui, mais les chrétiens, en fait, ils sont dans les statistiques comme tous les autres. Hein. Donc, il y a toutes les raisons pour lesquelles ils souffrent de la même chose ou le même succès. C'est statistique. parce qu'on n'arrive pas, ou parce qu'on n'a pas pris le temps de laisser cette parole transformer notre intelligence pour penser différemment. Mais la dernière chose, qui est peut-être la plus importante, c'est que dans un sens, lorsque les promesses nous sont données, on peut passer à côté si on ne les saisit pas. On peut passer à côté si on ne les saisit pas, si on ne les reçoit pas, si on ne décide pas de se les approprier. Et là, c'est le dernier grand point qui me semble important par rapport à toutes ces séries, c'est que Dieu, il peut dire, voilà ce que je dis, voilà ce que je promets et tout, mais il y a un moment où, comment est-ce que tu ouvres ton cœur, comment est-ce que tu décides que tu veux toi aussi tendre la main et la saisir ? Et je voudrais ici bien appuyer dès le début que les promesses de Dieu ne sont pas nécessairement Dieu qui dit « Je ferai ça si toi tu fais ça. Donc le jour où tu l'auras fait, moi je te renverrai l'ascenseur. » Mais plutôt ce que le Seigneur dit, il dit « Moi j'ai fait ça, mais ta façon d'en bénéficier, c'est de tendre la main et de le saisir. » Mais c'est déjà fait. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, peut-être bon, bah, tu le feras plus tard, ça sera un peu de temps perdu, ou ça ne fait rien, mais il y a un moment ou un autre, il faut que tu te l'appropries, il faut que tu tendes la main et que tu l'attrapes. Et là, j'aimerais vous donner quelques exemples. Nous sommes pardonnés en vertu de quoi ? Bon évangélique, on dira, ben, si tu te repens, tu seras sauvé. Mais c'est faux. Nous sommes sauvés en vertu de ce que Christ a fait à la croix. C'est quelque chose qui est réalisé dans l'œuvre de Jésus-Christ, indépendamment de nous, et notre repentance n'est qu'une façon de saisir ce que le Seigneur a déjà fait. Parce que sinon, nous retombons dans le système de la loi. Tout simplement, il dit, bah, demande pardon et puis je te pardonnerai, mais c'est un système de la loi. Le pardon aujourd'hui nous est acquis, non pas dans le fait que nous demandons pardon, mais il est acquis dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc la repentance à laquelle nous sommes invités et que nous prêchons, ce n'est pas de dire « repentez-vous puis vous serez sauvés », mais c'est plutôt « repentez-vous pour saisir le salut que le Seigneur vous a acquis à la croix et dans sa résurrection ». De même, comme je disais tout à l'heure, on a des versets comme « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et faire de l'Éternel ses délices, c'est une façon de s'ouvrir au Seigneur et de saisir ce qu'il nous promet et ce qu'il nous donne. Ce n'est pas le Seigneur qui fait du troc en disant « Sois gentil avec moi et puis pense seulement à moi, etc. et puis je te donnerai ce que ton cœur désire. » Il n'y a pas l'idée de troc là-dedans. Mais c'est une façon de s'ouvrir à tout ce que le Seigneur a dans ses greniers et qu'il veut ouvrir et déverser sur nous pour dire « Très bien, maintenant tu vas pouvoir le saisir parce que c'est en faisant tes délices de ma personne, que tu vas pouvoir les voir et les saisir et les comprendre, tout ce que moi j'ai préparé pour toi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là non plus, ce n'est pas simplement, moi le nombre de fois où j'avais interprété comme ça, oui, ben, j'aime pas assez Dieu, donc ben, les choses vont mal. C'est une mauvaise exégèse du texte. Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu parce que ceux qui aiment Dieu voient et pensent comme lui et lui donnent le bénéfice du doute dans toutes leurs circonstances et donc peuvent voir cette œuvre qu'il est en train d'accomplir, même si c'est au travers de moments difficiles. Le Seigneur ne dit pas « Aime-moi et je ferai que tout se passe bien pour toi ». Il dit « Aime-moi parce que tu comprendras comment je suis en train d'utiliser tout ce qui se passe pour ton bien ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. On a chanté le repos ce matin, on aimerait le repos, etc. Et tout. Mais le Seigneur n'est pas en train de dire, si tu viens à moi, je te donnerai du repos. Il dit, viens à moi parce que je te donne du repos. Viens et saisis-le. Entre dans ce repos, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc on n'est pas dans le cadre des promesses, et je m'arrêterai là sur ces exemples, d'un troc entre le Seigneur et nous, où on dit, bah, très bien, je ferai les choses bien, puis toi Seigneur, tu me donneras les autres choses. Mais c'est ce que le Seigneur a préparé pour nous d'avance. Et pour nous, ensuite, c'est une question de nous ouvrir à cela, que ce soit par l'amour, faire de l'Éternel nos délices. Il y en avait un autre, marcher dans la lumière pour que nous soyons en communion les uns avec les autres. C'est tous des moyens par lesquels nous nous ouvrons pour tout simplement comprendre et recevoir ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que l'œuvre qu'il a commencée en vous a commencé et de toute façon, elle ne s'arrêtera pas. Et il la réalisera parfaitement au moment de son retour. Donc quelque chose est en marche. Mais nous sommes invités aujourd'hui à saisir ces promesses. Ainsi donc, aujourd'hui, me semble-t-il, pour les promesses, et pour bien terminer cette série, c'est de nous inviter aujourd'hui à saisir ces promesses. Et à pas simplement nous arrêter en disant, Seigneur, tu as dit que, et puis le conseil, il nous l'a dit, donc tu me le dois. Mais c'est plutôt de dire, Seigneur, tu as préparé tout ça. Tu veux me donner tout ça. Comment est-ce que je me mets dans une position où je le reçois et où ça devient une réalité pour moi? Et là, je voudrais revenir encore à des choses fondamentales dans notre vie chrétienne que vous connaissez, mais cela ne sera jamais assez, me semble-t-il, de nous le rappeler. La première, et je crois que là, c'est peut-être un petit peu une des nouveautés, mais ce que Pierre avait dit dans sa première prédication, c'est laisser cette parole transformer votre tête et votre intelligence. Pensez différemment. Et moi, je suis en train de traverser un certain nombre de circonstances où tous les matins, je dois faire le choix. Est-ce que je pense comment le Seigneur m'invite à penser ou est-ce que je pense comme je ferais naturellement ou comme le monde pense? Et tous les matins, en ce moment, je me dis, John, pense différemment. Et c'est dur. C'est dur parce que on n'arrive pas à réconcilier les choses. Mais je sais bien ce que le Seigneur est en train de dire et je suis en train de me dire, il faut que tu vois les choses différemment. Et ça commence là, en se souvenant de ce que le Seigneur dit et comment il l'a dit. La deuxième chose, c'est aussi que les promesses, elles se saisissent par la foi. C'est simplement de croire et de s'ouvrir. Et là, l'apôtre Paul nous le rappelle à propos de l'œuvre en Christ, qui était la promesse ultime, dans un sens, que c'est par la foi que nous devenons héritiers. Et c'est ce que je venais juste de dire, là, ce n'est pas un troc entre Dieu et nous, parce que là, on retombait dans la loi. C'est-à-dire, si tu te conformes à la loi, je te donne le salut, mais ça n'a pas marché. Alors le Seigneur, il a dit, très bien, ça ne marche pas, je fais l'œuvre et je la réalise en Jésus-Christ, et je vous demande simplement de l'accepter par la foi. Et les promesses, c'est comme ça qu'elles se font aussi. Il faut que nous abandonnions l'idée que nous avons toutes sortes de conditions à créer pour que le Seigneur nous les donne. Non. Nous sommes invités à tout simplement ouvrir notre cœur et à dire « je les reçois ». Je les reçois et je crois, même si les circonstances et les événements disent autrement, mais je les crois. Et c'est comme ça que nous dit l'apôtre Paul que nous devenons héritiers des promesses qui ont été faites à nos pères et qui nous sont faites aussi. La deuxième chose, me semble-t-il, est là de façon très concrète. Le Seigneur, il nous dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans la vérité. L'apôtre Paul nous rappellera que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vit en nous. Et là, nous avons quelque chose de concret aussi, peut-être de façon toute simple et enfantine et tout, mais c'est tout simplement de dire, Saint-Esprit, parle-moi. Dis-moi. Toi, tu es celui qui doit nous conduire dans la vérité. Je te demande, toi qui vis en moi, montre-moi. Aide-moi à comprendre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et donc là encore, une fois que nous pensons différemment, c'est de dire tout simplement, Saint-Esprit, toi et moi travaillons à ce que je puisse voir ces choses-là, les saisir. Et vivre par elle. Et le Seigneur nous dit, je vous l'envoie pour qu'il vous conduise dans cette vérité. Et l'apôtre Paul, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il ne vous manque rien pour comprendre la vérité que le Seigneur veut nous dire dans sa parole et dans ses promesses. Et puis dans la prière, ce moment privilégié de dialogue et d'écoute, de méditation. Mais là encore, je veux dire, c'est à partir du moment où on prend du temps, c'est à partir du moment où on exprime au Seigneur, c'est à partir du moment où on repense à certaines de ses paroles et on s'est donné du temps pour cela en sa présence, que là le Seigneur fait aussi son œuvre en nous. Et c'est une promesse ou une invitation qu'il faisait à Jérémie au chapitre 33, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Et là encore, je reviens à certaines promesses du Seigneur que nous ne connaissons pas, ou que nous connaissons mal, ou que nous avons peut-être tordu. Mais là, dans la prière, c'est « Viens, demande-moi et je vais t'instruire. » Chers amis, les promesses du Seigneur sont fermes et certaines parce qu'elles sont ancrées dans le Seigneur lui-même. Mais nous avons aussi cette promesse que nous rappelle l'apôtre Pierre. Déjà, lui, en son temps, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. » Et là, probablement, l'apôtre Pierre avait peut-être en vue aussi le retour du Seigneur. Et moi, j'aimerais appliquer cette promesse, en fait, à l'œuvre que le Seigneur fait en nous et de la réalisation de ses propres promesses dans notre propre vie. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des moyens par lesquels nous pouvons saisir ces promesses et vivre par elles. Ce n'est pas une question d'être plus spirituel à un moment ou à un autre, d'être plus intelligent. C'est de renouveau se placer en te disant, « Seigneur, premièrement, tu me les donnes, je ne suis pas là simplement pour créer les conditions, mais je dois les recevoir. » Et le Seigneur nous invite aussi tout simplement dans ce que nous pratiquons tous les jours, dans notre foi, dans notre prière, dans l'invitation du Saint-Esprit, à nous conduire pour que nous puissions les voir et penser différemment. Je voulais rappeler au début, les promesses qui nous sont données, ce n'est pas parce que le Seigneur veut gâter ses enfants et puis « je te donne tout ce que tu veux ». Parce que tu es mon enfant. Et il nous donne ses promesses parce qu'il a entamé cette œuvre en nous. Et ses promesses nous disent à quel point cette œuvre est belle. Et je vous invite donc à repenser un petit peu à ces promesses dont nous avons parlé, de contempler ce que le Seigneur a commencé en vous, et de vous dire, Seigneur, maintenant, moi ce que je voudrais, c'est simplement les saisir, me les approprier et vivre par elles. Encore une fois, laissez de côté l'idée que vous devez créer des conditions pour que ça marche ou ça ne marche pas. Non, les conditions, elles se trouvent là dans l'œuvre de Christ à la croix. Ça, c'est réalisé. La vie, nous l'aurons. La question, c'est qu'aujourd'hui, ça a commencé et il y a énormément de dimensions de notre propre vie qui peuvent changer dès lors que nous saisissons ces promesses et que nous vivons par elles. Et là, je pourrais revenir sur toutes les prédications que nous avons faites, mais c'est incroyable tout ce que le Seigneur, dans un sens, nous promet et qui sont d'une actualité pour ce que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, je voulais terminer un petit peu sur ce chapitre-là qui était repenser à toutes ces promesses dont nous avons parlé, mais aussi penser à comment vous pouvez les saisir. Et encore une fois, ce n'est pas Dieu qui vous dit « si tu fais ça, je te les donnerai ». Oh, mais je terminerai tiens, sur une illustration. Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, vous vous souvenez, à un moment, il coupe des animaux en deux et puis il les place de chaque côté. Et à l'époque, il fallait que les deux parties passent au milieu. Et c'était une façon pour les deux parties de s'engager l'une envers l'autre. Donc on coupait les animaux, puis on passait au milieu. Et ça signifiait que si jamais moi je ne tiens pas ma promesse, qu'il me soit fait la même chose que ces animaux. D'accord ? Donc c'était une menace qui pesait sur les parties. Lorsque Dieu fait ça avec Abraham, il est le seul à passer entre les animaux. Abraham ne passe pas. Dieu seul donne sa parole dans l'alliance. C'est à ce point-là que Dieu s'engage. C'est comme si aujourd'hui, il était le seul à signer un contrat et qu'il n'y avait pas une deuxième partie. Dieu seul s'est engagé et c'est sur cet amour, cette détermination qu'il a à notre égard, que nous pouvons, nous, alors, bâtir notre propre vie, parce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de cette bonté, de cet amour, de cette grâce qu'il a déversée à la croix, qui nous permet ensuite de vivre. Je voudrais inviter Anne-Laure et Mathieu à s'approcher. Et j'aimerais ce matin peut-être nous encourager tous lorsque nous prenons le pain et le vin. Déjà, nous ne sommes pas obligés de le faire. Donc tous ceux qui ne souhaiteraient pas le faire, ne le faites pas. On n'est pas obligé de le faire. On n'est pas mieux si on le fait, on ne le fait pas. Mais faites-le si vous voulez vraiment saisir ce que le Seigneur a fait à la croix. Et si vous dites pour vous-même, mais aussi pour les autres, c'est là-dessus que moi je bâtis ma vie. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous prenions conscience que cette parole donnée du Seigneur, elle repose sur le fait que lui, il nous a aimés au point de mourir lui-même et non pas nous faire mourir. Et que c'est parce qu'il est mort sur une croix et que cet événement a eu lieu qu'aujourd'hui, nous pouvons bâtir notre vie et saisir ses promesses. Alors je vous invite à recevoir la vie, à recevoir ces promesses que le Seigneur a faites, parce qu'il les a accomplies une fois pour toutes sur la croix.
On est dans un temps de silence, je ne sais pas si vous avez apprécié ce temps de... pour se remettre devant Dieu. Je crois que c'était appréciable d'avoir cette conclusion sur les promesses de Dieu. Et John l'a dit, mais vous pouvez retrouver tous les messages, les anciens messages, tous sur le site. Je vous invite à y aller. C'est vraiment intéressant de reprendre ce qu'on a entendu. Moi, je vous donne les infos pour cette semaine et diverses infos encore. Voilà pour la semaine, donc. Mardi, les cellules. La cellule de Gex, c'est chez Didier Loredan. La cellule de Prévesin, chez Manu Rebecca. La cellule du Sud, chez Fred et Nancy. Voilà. La chorale, mercredi la chorale. Et non pas jeudi, mercredi. Ok ? Jeudi, il n'y aura personne hein, pour chanter. Mercredi, donc. Hein. Voilà. Jeudi, il y a la pastorale à 18h. Pensez-y aussi dans vos prières. Samedi, groupe de jeunes. Dimanche, ici, café-thé. Et dimanche, il y a également une série d'études à Saint-Genis sur la souffrance qui sera donnée par Frédéric Travier. Il y a une affiche au fond. Il y a notamment des réunions le samedi, si ça vous intéresse. Mardi, d'après études bibliques pour les aînés, 14h30. Je vous annonce quelques dates encore, mais vous les connaissez déjà. D'abord, le club du mardi 22 mars. Il y a, je ne sais pas si encore des papillons au fond. Il y a encore quelques papillons au fond pour ce club-là. Et les papillons pour le club d'été sont arrivés cette semaine. Voilà, je vous les montre. Voilà, papillons pour s'inscrire. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site. Je rappelle à tous ceux qui veulent s'engager qu'ils peuvent le faire sur le site directement. Hein, c'est important. Pour se mettre dans les différents groupes de travail pour ce club. Donc on veut vraiment, vraiment y penser. Les papillons pour la semaine prochaine, c'est ceux-là, c'est les rouges. Voilà, les papillons pour différents clubs, c'est pas tout ça. Le dimanche après le 22, après le samedi 22, c'est le dimanche 23. Journée de fête ici avec les baptêmes, 4 baptêmes, Thérèse, Pierre, Thécla, Sandy. Donc on veut se réjouir de cette journée de fête. Là, c'est la réponse aux promesses de Dieu aussi, directement dans les vies. Et on va vraiment se réjouir de ce temps, passer la journée ensemble. Il fera sûrement beau. Donc, on passera le temps là, ça sera super. On mangera ensemble le midi. Et puis, alors, il y a un panneau pour s'inscrire pour le repas. On vous invite à vous inscrire vraiment, parce qu'il y a un repas qui sera donné. Par contre, il faut amener des desserts. Si vous avez envie de desserts, amenez des desserts. Donc, amenez des desserts. Tout le reste sera prévu. Voilà. Et puis, il manque quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, il manque Mélodie. Rémi, tu peux envoyer la photo ? Voilà. Voilà, alors je vous présente Aélis. Alors, elle commence, ça s'écrit A-E-L-Y-S. Aélis. Voilà. Ça, vous savez, vous ne pouvez pas faire d'erreur. A-E-L-Y-S. Qui est né le 7 mars, C'est tout récent. Mélodie va mieux, Mélodie va bien. Elle a eu un petit souci après l'accouchement, donc, mais elle va bien. Nathan aussi, j'imagine. Et puis, ils ont simplement demandé pas de visite aujourd'hui, simplement. Je crois que... Oui, Pierrick. Vas-y, alors improvise, c'est très bien.
J'improvise juste, je me permets, parce qu'on les a vus hier. Et puis, c'est vrai que Mélodie était pas bien. Elle a eu une anesthésie générale hier matin. Ça va mieux aujourd'hui, je vous ai appelé avant, mais moi ça m'a fait un petit peu un coup au cœur quand je l'ai vu comme ça, Mélodie, on s'y attendait pas. Et je réfléchissais à qu'est-ce qu'on pourrait faire comme eux, alors je me disais que tu allais certainement dire qu'il faut prier pour eux, c'est vrai. Il ne faut pas leur rendre de visite aujourd'hui, ce qu'ils nous ont dit, mais moi je me suis dit qu'on allait leur envoyer une photo. Pour leur envoyer un peu, je pensais à ce chant, vous savez, chaîne d'amour. Alors juste là, vous savez, à droite, vous pouvez serrer un peu vers là, parce que je ne vais jamais arriver à cadrer avec mon truc là. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein. Moi je ne vais pas forcer les gens. Mais je pense que ça leur apportera un petit peu un petit rayon de soleil, même si c'est là, mais dans le cœur. Ah voilà, ça sera mieux comme ça. Ah, vous êtes beau. Ah, je vais pas la rater, c'est bon. Je vais me mettre debout là, hein, comme ça. Et ouais, je sais pas. Ouais, genre voilà, t'as tout compris. Bon, je fais une photo, hein. Attendez. Hop, on fait comme ça. Ouais, je fais pas de la pub. Voilà. Je leur enverrai ça en leur partageant le mot que on pense qu'on partage vraiment les joies, les peines. C'était un mélange de joie et puis de difficulté hier. Alors, on espère que ça ira mieux. Puis merci, je leur enverrai ça.
Voilà, merci Pierrick. C'est une bonne idée de partager ça avec eux. On a retrouvé Hélène et Briand la semaine passée. Hélène est là aujourd'hui et on se réjouit. Alors aussi un petit clin d'œil pour Hélène. Elle m'a soufflé ce matin qu'il faudrait qu'elle marche. Mais elle est chancelante, Hélène. Alors il fait beau cette semaine. Si vous avez un bras compatissant, solide, pour aller marcher un petit moment avec Hélène, vous l'avez voulu téléphoner. Elle ne le sait pas, mais elle va le comprendre très vite. Elle ne le sait pas encore. Voilà. Donc, si vous avez un petit moment pour aller appeler Hélène, dit, tiens, je vais marcher une heure avec toi. On vient se balader un petit coup. Peut-être une heure, ça sera long, mais enfin, balader un petit coup. Voilà. Donc, en tout cas, on se réjouit de vous retrouver ici. Voilà. Continuons à penser aux personnes qui ont besoin de rétablissement, qui sont souffrantes aussi. Et en tout cas, se réjouir de ce que Dieu peut aussi, là, nous aider à partager. C'est intéressant de... Petite expérience de la photo, là, ce sujet-là. Voilà, autre annonce que j'aurais oubliée. Alors, j'invite à vous lever. Et dans la suite de ces promesses où on nous a vraiment invités à d'abord venir à Dieu, qu'il n'y a pas de si tu, je ferai, non. Mais par contre, il y a encore, et c'est une promesse aussi qu'on trouve à la fin de l'épître où Paul parle aux Philippiens et il leur dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et il termine sa lettre avec ce mot, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu, notre Père, la gloire, au siècle des siècles. Amen. »